France Musique.
Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le Dab et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze.
Bonsoir à tous, bienvenue sur France Musique. Vous êtes à l'écoute des Blazes du Jazz. Un blaze, c'est un pseudo, un sobriquet, un surnom ou un nickname, comme on dit en anglais. Et les jazzmen en raffolent. Ils en raffolent à tel point que la liste de ceux qui ont été un jour rebaptisés est longue comme le Nil. Il y a même des musiciens dont on a oublié le nom à force de les appeler par leur surnom. Tenez, par exemple, Nathaniel Adam Cole. Ça vous parle nettement moins que Nat King Cole, non? Et j'imagine que le nom d'Edward Kennedy Ellington vous est probablement moins familier que celui de Duke Ellington, je me trompe? En tout cas, une chose est sûre, à la grande loterie des blazes, tous les musiciens n'ont pas été logés à la même enseigne. Certains ont reçu des surnoms désopilants, d'autres désobligeants. Et puis il y a ceux plus chanceux, comme les musiciens qui vont nous tenir compagnie ce soir, à qui on a donné des surnoms anoblissants. Ceux qui ont vu s'accoler à leur nom un titre honorifique, roi, comte, duc ou président, et qui ont ainsi rejoint ce qu'on appelle la « jazz royalty ». La jazz royalty, ou royauté du jazz, c'est la grande famille des musiciens à qui on a attribué un titre de noblesse. Cette pratique est née dans les premières années du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans au début du XXe, et c'est là que vont naître le jazz et son tout premier roi. Il s'appelle Charles Buddy Bolden, il est né en 1877, il joue du cornet et il va très vite devenir King Buddy Bolden. Il y a beaucoup de légendes qui circulent à son sujet, on dit qu'il était un sacré tombeur, qu'il était un peu trop penché sur la bouteille. On dit aussi qu'il aurait été barbier, qu'il aurait reçu de nombreux musiciens dans son arrière-boutique et qu'il aurait trouvé son premier cornet dans la rue. Mais ce ne sont que des suppositions et on ne sait finalement pas grand-chose de source sûre. On a bien une photo de lui, mais zéro interview et surtout zéro enregistrement, parce qu'à l'âge de 30 ans tout pile, Bolden va être interné en établissement psychiatrique avant d'avoir pu graver sa musique. Ce qu'on entend là, c'est donc malheureusement pas ce cher Buddy Bolden, mais le trompettiste Wynton Marsalis, qui a composé la quasi-totalité de la BO du film Bolden, un biopic consacré au premier king du jazz et sorti l'année dernière. Pour composer cette bande originale, Wynton Marsalis s'est appuyé sur des retranscriptions de solos de Bolden et aussi sur des souvenirs relatés par ses contemporains. Voici donc ce à quoi aurait ressemblé selon lui la musique du King Bolden. Le titre s'appelle « Whip It », et Wynton Marsalis est entouré de ses complices du Lincoln Center Jazz Orchestra. Énormément d'éléments biographiques sur Buddy Bolden, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il a été l'un des pères fondateurs du jazz. À l'heure où les formations de sa ville jouaient des valses, des mazurkas et du blues, lui développait son propre style, un mélange de ragtime, de negro spirituals et de fanfare. Et à l'heure où les formations de sa ville respectaient les notes et les temps, lui créait une rythmique nouvelle permettant d'improviser. Cette rythmique, elle s'appelle le Big Four, démonstration en musique par Wynton Marsalis.
And eager always to surprise and delight his listeners with the richness of his musical ideas.
Buddy Bolden a inventé le rythme que l'on appelle le Big Four. Ce passage aux quatre temps est légendaire. Le Big Four, c'est quand vous articulez le deuxième des quatre temps d'une marche. Donc sur le quatrième temps...
With the Big Four, you go donch, 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 go donch, 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 go donch. So on that fourth beat, the drum
Donc sur le quatrième temps, le tom et la cymbale sont joués ensemble. C'est à ce moment précis que le jazz commence réellement à swinger. Avant, les trompettes jouaient strictement la partition. Mais avec le Big Four, tout va changer. Quand je le joue, ça sonne comme mon son, et je vais le jouer avec un autre sentiment, en utilisant différents sons, en faisant pleurer mon phrasé.
Pour le King Buddy Bolden, son règne ne va être que de courte durée. Son mode de vie décadent et son alcoolisme vont lui ruiner la santé et l'esprit. À 30 ans, au terme d'une carrière fulgurante, il devient complètement fou et on l'interne dans un hôpital psychiatrique dont il ne sortira plus jamais. Il va mourir là-bas seul et anonyme, ce qui n'est pas très gai, je vous le concède. Heureusement pour lui, la postérité et ses disciples et admirateurs ne l'ont pas oublié. Sidney Bechet lui rendra hommage dans son Buddy Bolden Stomp, Duke Ellington dans A Drum is a Woman, Nina Simone dans Hey Buddy Bolden et Jelly Roll Morton dans son Buddy Bolden Blues que voici.
what I heard Buddy Bolden say. You're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say. I thought I heard Buddy Bolden shout. Open up that window and let that bad air out. Open up that window and let the foul air out. I thought I heard Buddy Bolden sing. Thought I heard Judge Fogarty say, 30 days in the market, take him away. Get him a good broom to sweep with. Take him away. I thought I heard him say. Thought I heard Frankie Toussaint shout. Gal, give me that money. I'm gonna beat it out. I mean, give me that money like I explained you. I'm gonna beat it out, cause I thought I heard Frankie Toussaint say.
La place de roi du jazz est maintenant vacante et la couronne va se passer entre les mains de deux de ses disciples qui jouent tous les deux du cornet. Alors vous allez me dire, dis donc, il y a que des cornettistes parmi les rois du jazz en fait. Eh ben oui, en tout cas parmi les premiers rois du jazz. Et c'est pas tellement étonnant parce que en ce début de XXe siècle, à la Nouvelle-Orléans, le cornet, c'est l'instrument star des fanfares. Facile à apprendre, facile à manier, il offre un son puissant qui perce à travers le boucan des parades et des salles de bal. C'est sans doute pour ces raisons-là que notre deuxième roi du jazz, Freddie Keppard, alors qu'il jouait de la mandoline, du violon et de l'accordéon, il va délaisser tous ses instruments pour se consacrer lui aussi au cornet. Thank you. Buddy Bolden, Freddy Keppard est né à la Nouvelle-Orléans et son son de cornet est aussi puissant à en faire trembler les murs. Mais contrairement au premier King, le deuxième, lui, nous a laissé des enregistrements de ses prouesses. Pourtant, c'était pas gagné parce que Keppard était terrorisé à l'idée qu'on vole son style. Et quand il jouait, il cachait sa main qui actionnait les pistons quand il jouait pour ne pas qu'on décrypte ses phrases et son doigté. C'est sans doute aussi pour ça qu'il refusera d'enregistrer pendant des décennies, ce qui est franchement dommage parce que s'il avait accepté quand on lui a proposé en 1915, son disque aurait été le tout premier disque de jazz au lieu de celui de l'original Dixieland Jazz Band sorti l'année suivante. Mais enfin, le principal, c'est qu'il se soit décidé un jour à entrer en studio, autrement on n'aurait jamais entendu ça. Comme son prédécesseur, Freddy Keppard va jouer un rôle majeur dans la popularisation du jazz. Mais lui va aller encore plus loin, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, puisqu'il va voyager. En 1912, accompagné par quelques amis musiciens, Freddy Keppard met le cap sur Los Angeles, où il fonde l'Original Creole Orchestra. C'est une des premières fois que le jazz New Orleans s'exporte au-delà de la Louisiane. Le groupe devient le plus populaire de la côte ouest et entame une tournée à travers le pays qui va le mener à Chicago, puis à New York. Buddy Bolden était le roi du jazz New Orleans et Freddy Keppard, lui, vient de devenir roi du jazz national. La couronne va se retrouver sur la tête de Joe Oliver, qui va devenir King Oliver. Mais comme cette émission n'est pas consacrée au king du cornet, je vous propose qu'on se penche plutôt sur un roi qui n'est pas cornettiste et qui est loin d'avoir fait l'unanimité.
Les Blazes du Jazz, Marjolaine Portier-Kaltenbach, c'est l'été sur France Musique.
Appartenir à la royauté du jazz, c'est très chic, mais c'est à double tranchant. Quiconque se voit remettre un titre qu'il ne mérite pas s'expose aux foudres de la critique. Et c'est ce qui est arrivé au chef d'orchestre Paul Whiteman. Paul Whiteman est né à Denver en 1890. Il est altiste et il va jouer dans l'orchestre symphonique de sa ville, puis dans celui de San Francisco. Mais lui, ce qu'il fascine, c'est le ragtime et la musique syncopée. Alors en 1919, il crée son propre orchestre, le Paul Whiteman Orchestra. Le répertoire du Paul Whiteman Orchestra, c'est principalement de la musique de danse, de la musique de variété et des pièces classiques pseudo-jazzifiées. Le succès est immédiat, l'orchestre file à New York et enregistre son premier opus composé de deux titres, dont ce Whispering que l'on va entendre et que vous allez peut-être reconnaître. Vous avez peut-être reconnu « Ah si j'avais un franc 50 » chanté par Boris Vian. Eh bien, ce titre a été popularisé par l'orchestre de Paul Whiteman et l'enregistrement va se vendre à plus de 2 millions de copies. Whiteman va devenir une star, il sera bientôt à la tête de 25 orchestres de danse à travers le pays. Mais malheureusement, il va vite diviser la critique. Le 13 août 1923, Whiteman et son orchestre rentrent de leur première tournée en Angleterre. Ils sont attendus sur le quai par des fans, des célébrités et par des représentants de l'industrie musicale new-yorkaise. Alors que Whiteman descend du bateau, on lui pose une couronne sur la tête. Une couronne en or fabriquée par la marque d'instruments Bucher, dont Whiteman est le représentant. Magnifique coup de pub, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ça y est, Whiteman vient de devenir officiellement roi du jazz.
I mean the king of jazz, Paul Whiteman himself.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il réponde vraiment aux critères. Déjà, comme son nom l'indique, il est blanc. Il n'est pas soliste, mais il se contente de diriger plus ou moins bien un orchestre. Et puis, pour ce qui est de son répertoire, il fait essentiellement appel à des compositeurs et à des arrangeurs. Et puis, ce que prône et joue Whiteman, c'est un jazz symphonique. Un jazz mêlé d'éléments empruntés à la musique classique, un jazz écrit, un jazz orchestré, polissé, sans improvisation. Bref, un jazz plein de bonnes manières qui va enchanter le public blanc.
Now, of course, no gathering of Irving Berlin's friends would be complete without the man who did for American music what Zitfield did for the American girl. He's right here in the studio, just came in from his Chesterfield broadcast with a little word of greeting. I mean the king of jazz, Paul Whiteman himself. Thank you, Al. It's the story of how Irving came to write the spectacular song hit in the great Ziegfeld Follies of 1919. It happened something like this. While the show was in preparation, Flo Ziegfeld called Berlin and said, Irving, I've got five beautiful costumes designed for a girl number.
and five of my most beautiful showgirls to wear them. But I need a musical idea to tie the whole thing together. Irving took one look at the girls, and he could almost hear a strain of music. Mendelssohn's Spring Song. Why not? Each of the girls would represent some classical melody. One would be the Spring Song, one Traumerei, that's it, Traumerei. Another, Tales of Hawthorne.
Ce concept de jazz symphonique, Paul Whiteman est bien décidé à le promouvoir. Le 12 février 1924, il organise un concert qu'il appelle pompeusement « Une expérience de musique moderne ». Son objectif, c'est de prouver que depuis ses débuts, je cite « décadents », le jazz a progressé et a pris une forme mélodieuse et civilisée. Pour Whiteman, ce concert est avant tout pédagogique. Et pour montrer le chemin parcouru par ce jazz décadent, il ouvre la soirée avec Livery's Table Blues. Le décor est planté, Whiteman et son orchestre vont maintenant présenter ce qu'ils considèrent comme étant la forme aboutie du jazz par excellence. Et ils vont créer une pièce spécialement commandée par Whiteman pour l'occasion. Le compositeur de la pièce est là, au piano, il s'appelle George Gershwin et cette pièce c'est Rhapsody in Blue. Thank you. critiques musicaux vont considérer que Whiteman a usurpé l'étiquette du jazz à des fins commerciales. Dans son livre « Culture, jazz et société » paru en 1966, Michel Dorigné déclare que Whiteman fait prendre pour du jazz ce qui n'en est qu'une, je cite, « trahison symphonisante et sirupeuse ». Le voilà rhabillé pour l'hiver. Mais paradoxalement, les musiciens, eux, ne voyaient pas tant Whiteman comme un rival que comme une opportunité. Intégrer un de ses orchestres, ça voulait dire 1. Être bien payé et 2. Gagner en notoriété. Résultat, d'excellents musiciens vont défiler dans son orchestre, le cornettiste Bix Beiderbecke, Red Nichols, le trompettiste, Jack Teagarden, le guitariste, et aussi des chanteurs comme Louis Armstrong, Bing Crosby et Mildred Bailey, première chanteuse à se produire avec un big band. La voici dans All of Me avec bien sûr le Paul Whiteman Orchestra.
No good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Paul Whiteman n'est pas le seul musicien à qui on ait posé une vraie couronne sur la tête. C'est aussi ce qui est arrivé au roi des crooners, Nathaniel Adam Coles, plus connu sous le nom de Nat King Cole.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I warn my arms about you. Don't be a naughty baby. Papa, come to Papa, do. My sweet embraceable you. Thank you. be a naughty baby. Come to Papa, do. My sweet embraceable you.
Quand on pense à Nat King Cole, on pense immanquablement à sa voix irrésistible, reconnaissable entre mille. Pourtant, Nat King Cole n'avait au début aucune envie de devenir chanteur. Non, lui, ce qu'il voulait, c'était uniquement devenir pianiste de jazz, et il avait d'ailleurs un immense talent. Ses premières gammes, il les a faites dans une église baptiste, où son père est pasteur et sa mère, pianiste et organiste. À 4 ans, il commence à jouer pour accompagner les offices, et le piano viendra après. Le premier enregistrement de Nat King Cole à l'orgue, c'est le fruit d'un total hasard. En 58, il entre en studio pour enregistrer avec la chorale de la First Church of Deliverance. Pendant une pause, il quitte le piano et il s'installe à l'orgue. Il se met à jouer un spiritual qu'il connaît évidemment par cœur, environnement familial oblige. Évidemment, c'est fantastique. Ni une ni deux, le directeur artistique lui demande s'il accepte d'enregistrer quelques titres à l'orgue.
Nobody pray, I couldn't hear nobody pray. Way down yonder by myself, I couldn't hear nobody pray. I couldn't hear nobody pray. I couldn't hear nobody pray. With my burden. My Savior, travel all over the country, travel all over the sea, travel all over the world. Nobody could hear nobody pray.
Just seems like I couldn't hear nobody pray. I couldn't hear nobody pray. Yonder by myself, I couldn't hear nobody pray. Couldn't hear nobody pray. Couldn't hear nobody pray. Couldn't hear nobody pray. When I'm yonder by myself, I couldn't hear nobody pray.
Le couronnement de Nat King Cole remonte au tout début de sa carrière, à l'époque où il n'était pas chanteur mais pianiste. En 1938, Bob Lewis, le directeur du club Swanee Inn à Hollywood, lui promet de l'embaucher s'il forme un groupe. Nat fonde aussitôt un trio très original, sans batterie mais avec une guitare, celle d'Oscar Moore, et une contrebasse, celle de Wesley Prince. Bob Lewis décide de faire un coup de pub à ce nouveau trio et il demande à Nat de porter une couronne en papier doré sur scène. Nat King Cole n'est pas enchanté par cette idée et il va vite se débarrasser de la couronne, mais le titre, lui, va rester. Nathaniel Adam Cole s'appelle maintenant Nat King Cole et son trio, le King Cole Trio. Les voici tous les trois dans With Plenty of Money on You. Je vous laisse apprécier le jeu de piano du King.
Thank you.
Ce club Swanee Inn à Hollywood y va décidément porter chance à Nat King Cole. C'est là qu'il a fondé le trio grâce auquel il va connaître un début de notoriété. C'est là que Bob Lewis l'a rebaptisé Nat King Cole. Et puis c'est là, surtout, qu'il va prendre la mesure de ses talents de chanteur. Un soir, dans le bar, un client éméché lui demande de chanter Sweet Lorraine. Nat ne veut pas, il répond poliment que son groupe est seulement un groupe instrumental. Mais le client insiste. Et Nat entonne les premières notes de la chanson. Le public applaudit à tout rompre, sa carrière de chanteur est lancée. Et dire qu'on n'a jamais failli l'entendre chanter.
Just found joy. I'm as happy as a baby boy. Boy, boy. With another brand new choo-choo joy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine. A pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile, oh, oh. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle, oh, oh. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. I don't miss the sun, because it's in my baby's smile, ho, ho. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle, ho, ho, ho. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
été fait roi à l'époque où il était inconnu au bataillon. C'est aussi le cas d'Edward Kennedy Ellington, ou Duke Ellington, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas hérité de son surnom au terme de sa splendide carrière, mais bien avant. Edward Kennedy Ellington s'appelle Duke depuis qu'il est petit garçon. À l'époque, il est déjà fou de musique. À 15 ans, inspiré par son job de serveur au Poodle Dog Café, il compose son tout premier morceau, Soda Fountain Rag, le rag de la fontaine à soda. Il l'a composé d'oreille, puisqu'à l'époque, il ne lit absolument pas la musique. Un soir, à une fête, Edward Ellington joue ce morceau. Comme à son habitude, il est tiré à quatre épingles, costume à la mode, cravate et chaussures brillantes. Edgar McEntry, un de ses bons copains présents ce soir-là, est épaté par ce jeune homme si élégant derrière son piano. Il le surnomme Duke, surnom qui ne le quittera plus jamais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu le nez creux. Intronisé à l'âge de 14 ans, l'un des futurs plus grands pianistes, chefs d'orchestre et compositeurs de jazz du XXe siècle, ça, c'est du flair. comme son nom ne l'indique pas, dans la royauté du jazz, il n'y a pas que des rois. Il y a aussi un couple présidentiel formé par le saxophoniste Lester Young et la chanteuse Billie Holiday. Ils se sont trouvés leurs surnoms respectifs, Prez comme président pour lui et Lady Day pour elle.
I got it from a saxophone player named Lester Young. They call him Prez. I sort of named him Prez.
And I gave her the name of Lady Day.
En vérité, Billie Holiday était déjà surnommée Lady avant de rencontrer Lester Young, sauf que ce surnom était initialement péjoratif. Au Lodge Cabin où elle se produisait, à Harlem, Billie refusait de ramasser l'argent qui laissait les clients sur les tables. Ses collègues qui la trouvaient trop fière se sont mis à l'appeler Lady, et c'est Lester Young qui ajoutera plus tard le Lady Day. Quant au surnom de Lester, voici ce que racontera Billie. Quand j'ai eu l'idée de donner un surnom à Lester, j'ai cherché tout de suite quelque chose qui indique qu'il était le plus grand. Or, dans notre pays, roi ou duc, ça ne veut pas dire grand-chose. L'homme le plus important du moment, c'était Franklin Roosevelt, le président. J'en ai fait Prez, un surnom qui dit bien ce qu'il veut dire et qui est mon avis. Lester est le plus grand homme de ce pays. Et puis... puisqu'on ne va pas se quitter sans les avoir entendus, voici Back in Your Own Backyard. Prez et Lady Day sont entourés par les membres de l'orchestre de Billie Holiday.
Birds with feathers of blue is waiting for you back in your own backyard. You'll see your castles in Spain through your window pane. Back in your home backyard. Oh, you can go to the east, go to the west, but someday you'll come weary at heart back where you started from. You'll find your happiness lies right under your eyes. Back in your own backyard.
C'est la fin de cette première émission Les Blases du Jazz. Merci à Claire Lagarde qui était à la réalisation, Stéphane Poitevin à la technique, Emmanuel Lacaze à la préparation et Emmanuel Rose à la cabine.
À réécouter sur francemusique.fr.